I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve encore et toujours pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et avant de démarrer ce tout premier épisode de cette troisième saison, un immense merci aux tipeurs et tipeuses de l'émission pour leur soutien. Si vous aimez Année Lumière, n'hésitez pas à faire comme eux. C'est libre et sans engagement et ça se passe à l'adresse tipeee.com/année-lumière. Ce mois-ci, mon invitée est co-traductrice du roman The Disaster Artist et co-autrice de l'ouvrage slasher Attention, ça va couper. Vous pouvez également l'entendre dans l'émission Sale temps pour un film chez nos amis de Capture Mag. Et elle est aussi présidente de Panique Cinéma, le rendez-vous des cinéphages avides d'émotions fortes et de séances ciné décalées. Cette personne pleine de talent, c'est Marie Casabonne. Salut Marie.
Salut.
Ça va?
Ça va très bien et toi?
Ah bah ça va très très bien, je suis très très heureux de t'avoir dans l'émission. Alors c'est quoi Panique Cinéma?
Alors Panique Cinéma c'est un ciné-club qui existe depuis maintenant 11 ans je crois. Ouais. À l'époque on a commencé au Nouveau Latina qui était un cinéma près de l'Hôtel de Ville. Maintenant depuis 5 ans on est au Forum des Images.
Vous présentez du coup des
et
films
voilà,
un peu...
Voilà, on présente des films. Alors à la base Panique était plus sur le cinéma de genre et d'horreur. Et l'idée c'est de faire un ciné-club en fait où on place toujours le public au centre de nos séances. Donc on essaie de faire découvrir des films qu'on aime. Alors parfois c'est des grands classiques mais que les gens n'ont pas forcément vu. Parfois c'est des petites pépites, des trucs méconnus, ouais. Des petites séries B voire Z. Et l'idée, c'est toujours d'apporter un éclairage sur le film, d'avoir des invités et d'avoir des débats avec le public après le film et qui se poursuivent dans un bar en général jusqu'à 3-4 heures du matin. Et donc voilà, on essaie de faire une expérience un petit peu complète sur les films et c'est assez drôle en général.
Et ça fonctionne bien parce qu'en ayant participé à ces séances-là, j'ai vu à quel point c'était génial effectivement et c'est toujours un grand moment. Les
ouais.
séances Panique Cinéma.
Ouais, ouais, c'est toujours très chouette.
Alors ce mois-ci, avec Marie, on vous parle une nouvelle fois d'un grand millésime dans Année Lumière, une année de films cultes, de nouvelles franchises et de nouveaux effrois. Les frontières de la peur, de l'horreur et de la tolérance des spectateurs bougent et se redessinent, et des trajectoires se croisent. Certains grands réalisateurs débutent leur carrière, quand d'autres cinéastes immenses signent, sans le savoir, eux, leur dernier film. Bref, aujourd'hui, on vous parle de l'année 1984. Footloose de Kenny Loggins, on écoutait ça en 1984, musique de cinéma d'ailleurs, puisqu'elle est issue du film du même nom dans lequel on pouvait voir danser un Kevin Bacon déchaîné. Pourquoi avoir choisi cette année, Marie? Pourquoi cette période-là, 84?
Alors, moi, j'ai choisi très, très égoïstement cette année parce que je voulais parler de tout mon amour pour Freddy Krueger, parce que je suis très frustrée de ne pas pouvoir assez en parler dans des podcasts ou dans des bouquins. Du coup, voilà, je me suis dit, 84, c'est Freddy, c'est trop bien. Et puis, j'ai regardé le reste des films qui étaient sortis en 84 et je me suis dit, oui, c'est une très bonne année. Donc, voilà.
Donc, ça va être trop bien, effectivement. Tu as un peu annoncé le programme, mais c'est très, très bien aussi, puisque 84... C'est l'année de la sortie du premier Macintosh, hein, plus célèbre ordinateur d'Apple. C'est aussi l'année où l'URSS annonce son boycott des JO de Los Angeles en réponse au boycott américain des JO de Moscou 4 ans plus tôt. Cette même année, les gens écoutent Purple Rain, le nouvel album de Prince, découvrent la première version du jeu vidéo Tetris et célèbrent la victoire de la France et de Michel Platini à l'Euro de football. Les Japonais font la connaissance de Sangoku dans les premières aventures de Dragon Ball, publiées dans le magazine Weekly Shonen Jump, quand les Français, eux, accueillent une nouvelle chaîne de télévision, son nom Canal+. Mais 1984, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. C'est l'année des succès de grands films populaires que vous connaissez forcément. SOS Fantôme, Le Flic de Beverly Hills, Gremlins, Karate Kid, L'Histoire sans fin, Indiana Jones et Le Temple Maudit. L'année aussi du premier Terminator de James Cameron, de l'harmonieux Amadeus de Miloš Forman, du décevant Dune de David Lynch, ou encore de Marche à l'ombre de Michel Blanc, premier au box-office français cette année-là avec plus de 6 millions de spectateurs. Et Marie en a parlé, parmi ce défilé de films mémorables, l'un d'eux va laisser une empreinte plus importante sur son genre et même sur le cinéma en général. une griffe, si on peut dire, qui va marquer une évolution majeure du genre horrifique et de l'une de ses plus fameuses sous-catégories, le slasher. On est parti pour notre premier thème. Et oui, parce qu'en 1984 sortent les films 12 nuits sanglantes, Fatal Games, La colline à des yeux 2, Vendredi 13, chapitre final, et le film Les griffes de la nuit, qui sont tous des films qu'on peut ranger dans la catégorie des slashers. Et j'ai envie de te poser tout simplement, pour commencer la question Marie, qu'est-ce qu'un slasher ?
En fait, le slasher movie, c'est un film dans lequel il y a un tueur qui est souvent masqué, qui attaque des gens, souvent des jeunes gens, des lycéens, avec une arme blanche. L'origine de sa folie meurtrière se retrouve souvent dans un ancien trauma, une blessure narcissique, quelque chose qui remonte à l'enfance. Et les crimes peuvent revenir à des périodes plus ou moins à une date précise. Donc ça peut être Halloween, Vendredi 13, Noël, le 4 juillet, ou à des moments de la vie, ça peut être le bal de promo, les vacances, le camp d'été, des choses comme ça. Donc il y a plein de tropes du genre. Le slasher, c'est aussi un film qui souvent punit les comportements jugés un petit peu déviants, donc les jeunes qui boivent, les jeunes qui font la fête, les jeunes qui couchent. Mais c'est quand même pas un genre moralisateur, parce qu'au final, c'est quand même un genre qui est destiné au public adolescent masculin. Donc c'est un genre de film dans lequel on voit beaucoup de nudité, souvent gratuite, et un spectacle quand même assez gore avec plein d'effets horrifiques. Donc c'est un genre qui est un petit peu binaire, en fait, on va dire, sur ça. C'est vraiment un truc qui s'adresse aux adolescents, et paradoxalement, la personne qui s'en sort, en général, c'est toujours la final girl, donc c'est celle qui est vierge, c'est celle qui, en général, est sérieuse, travaille bien à l'école, c'est celle qui préfère faire du babysitting plutôt que d'aller voir son petit copain le soir d'Halloween, des choses comme ça.
La final girl, donc la fille finale.
La dernière survivante. On n'a pas vraiment de très bonne traduction en français. Donc,
c'est la dernière survivante, c'est bien.
C'est comme slasher, hein, c'est un peu, c'est un peu nul à traduire.
C'est quoi les origines du slasher? Parce que là, du coup, on a cité Les griffes de la nuit, on a cité Halloween, on a cité Vendredi 13, etc., avec ce tueur, avec Taillade.
C'est un sous-genre qui vient du crime italien, du crime allemand, du giallo italien. Il y a des films fondateurs, donc vraiment dans les slashers, il y a Black Christmas en 74 et surtout Halloween de Carpenter en 79. Mais avant ça, il y a des proto-slashers, des films de serial killer en fait. Il y a Psychose et Le Voyeur, donc d'Hitchcock et de Michael Powell, qui datent de 1960 tous les deux. Il y a Les Dix Petits Indiens de George Pollock de 65, c'est une adaptation d'Agatha Christie. Il y a La Baie Sanglante de Mario Bava. En fait, ça vient de toute une tradition comme ça de films de serial
movies,
killer.
Quoi. Voilà. Ouais, de films de serial killer. Et puis du coup, ça a dérivé vers l'horreur et c'est devenu, ça a créé du coup ces figures un peu particulières.
Voilà, c'est vraiment même si Black Christmas date de 74, c'est vraiment Halloween de Carpenter qui a consacré le genre et qui est devenu vraiment le slasher le plus connu, parce qu'il a aussi très très bien marché. C'est un budget de $300,000 à peine qui a rapporté soit, je crois, 70 millions de dollars, parce qu'en fait c'est aussi
ça
un
coûte
genre
pas cher, le slasher,
voilà, c'est un genre qui coûte pas du tout cher à produire. C'est aussi du coup un genre d'exploitation dans toutes les années 80, tout le début des années 80, c'est aussi là que ça va, qu'il y aura l'âge d'or et puis déjà le déclin du genre.
Du coup, t'as un peu anticipé, mais très bien. Où en est le slasher en 84, qui est l'année qui nous intéresse?
Alors en 84, il commence à décliner, parce qu'en fait, donc, comme je disais, 79, c'est l'explosion avec Halloween. Dès 1980, on a le triomphe du slasher avec Vendredi 13, qui lui aussi coûte à peu près $500,000 et en rapporte plus de 60 millions au cinéma. 17 millions, je crois, de plus avec l'exploitation vidéo, parce que c'est aussi, donc, comme je disais, un sous-genre d'exploitation qui marche en salle et en VHS. Et
ça lance des franchises, il y a des suites qui arrivent.
Voilà, il y a des franchises, il y a des copies de copies de copies, donc voilà, des choses qui sont un peu moins bien. C'est aussi pour ça que certaines franchises sont déclinantes ou c'est vraiment des films qui se singent eux-mêmes.
Tu vois trois films en trois ans avec qui sont quasiment identiques, tu te dis bon voilà. Et on en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que ces films-là, c'est aussi l'installation de grandes figures iconiques aujourd'hui du cinéma, parce qu'on a Vendredi 13, donc c'est Jason Voorhees, on a Halloween, c'est Michael Myers, là on va parler des griffes de la nuit avec Freddy Krueger. C'est quand même des gens qui sont encore aujourd'hui des icônes cultes d'horreur. alors qu'ils n'ont pas forcément un film qui sort tous les ans. Quoi.
Ça fait 40 ans que c'est des figures iconiques, en fait.
Et ça vient de là, ça vient de cette époque-là.
Voilà, et donc c'est vraiment ces années-là qui ont consacré ces tueurs-là et ces films-là. Et 84, c'est un peu le déclin. Il y a peu de films qui sortent en salle, même si bon, ça marche toujours en VHS dans les vidéoclubs. Mais il y a aussi la censure qui commence à se faire sentir. Il y a, en Grande-Bretagne, il y a la liste des vidéos nasty, c'est les films qui sont interdits. Aux États-Unis, il y a aussi beaucoup d'associations de parents qui se liguent contre certains films. Et même à ce moment-là, tu parlais tout à l'heure du chapitre 4 de Vendredi 13, qui s'appelle le chapitre final ouais. Qui malheureusement était loin d'être le final, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres après. Mais, ouais. Mais même à ce moment-là, les producteurs de Vendredi 13 pensent à mettre un terme à la saga, parce que vraiment, le genre retombe, en fait.
Et on arrive en 84, où le public en a marre, les films sont de moins en moins de bonne qualité, et le slasher a besoin, s'il veut survivre, de se renouveler. Et il va se renouveler grâce à une personne qui, d'ailleurs, n'est pas étrangère au slasher, puisque cette personne, ça va être Wes Craven, qui lui avait déjà fait La Cognée des yeux, qui lui avait déjà fait des films qui avaient pu distiller, inspirer le slasher au tout début, ses proto-slasher, etc., etc. Et lui, en 84, il arrive avec un film en particulier qui s'appelle Les Griffes de la nuit, qui est également un film au petit budget, 1,8 million de dollars, et qui va en rapporter près de 60 millions dans le monde, donc énorme succès. En quoi Les Griffes de la nuit et Wes Craven va changer le slasher et révolutionner un petit peu le genre horrifique?
Alors en fait, Wes Craven, ce qu'il amène dans le slasher, c'est le côté surnaturel, même s'il est déjà un petit peu présent, parce que c'est vrai que des tueurs comme Michael Myers ou Jason Voorhees, qui se relèvent tout le temps, ouais, qui marchent tout doucement et qui arrivent quand même à rattraper des filles et des ados de 15 ans qui courent normalement assez vite.
La magie du cinéma.
Voilà, non, mais il y a toujours un côté un peu surnaturel, même s'il n'est pas assumé. Après, dans les suites de la saga, voilà, il y a Jason le mort-vivant où il se relève comme un Frankenstein et tout. Mais là, vraiment, c'est le côté surnaturel qui est hyper assumé.
Rappelons l'histoire des Griffes de la nuit.
C'est un tueur qui hante et qui tue des ados dans leurs rêves. Et donc, je parlais tout à l'heure de blessures anciennes et de vengeance, mais à la base c'est un violeur d'enfants qui a été tué par les parents d'une petite communauté, d'une petite ville, et qui revient pour se venger dans son... Il a été brûlé en fait par les parents, c'est pour ça qu'il a cette apparence. À la base, les maquilleurs disent pizza face, parce que l'idée est venue en mangeant une pizza au pepperoni, et ils ont dit tiens, c'est cette tête qu'il faut faire, et donc il tue en fait les ados quand ils s'endorment, et le côté surnaturel et le côté rêve en fait permet à la saga une inventivité folle qu'on n'a pas forcément encore dans le premier, même s'il y a des mises à mort qui sont assez géniales. Mais dans la suite de la saga, ça permettra des apparitions de Freddy qui sont incroyables, parfois même un peu ridicules, mais même quand elles sont pas très bonnes, moi je les aime beaucoup. Ouais. Et donc en fait, il a réussi, Wes Craven avec ce personnage, en fait, il a réussi à allier le côté slasher et le côté monstre classique, universel, en fait, parce que on le range peut-être autant du côté de Michael Myers ou de Jason Voorhees que d'un vampire ou d'un Dracula, d'un loup-garou.
C'est le boogeyman par excellence.
Exactement.
Et en plus, comme tu disais, c'est quelqu'un dont il faut pas s'endormir, parce qu'il va t'attaquer, il va te pourchasser dans le cauchemar. Et moi, j'ai du coup, en voyant le film pour les préparer à l'émission, c'est vrai que tu as ces séquences un peu éthérées où tu as des gens qui courent dans la rue et tu ne sais jamais vraiment, et Wes Craven le fait très très bien, et c'est ça aussi la force du film, c'est que tu ne sais jamais quand tu pars dans une séquence, si t'es dans un rêve ou si t'es dans la réalité, et même jusque dans la dernière scène du film, tu ne sais jamais si elle se croit en sécurité et en fait ça se trouve elle le rêve, et du coup c'est un peu le Inception de l'époque. mais du coup tu ne sais jamais voilà s'il est en sécurité dans la réalité ou si elle est dans une construction de Freddy Krueger et elle est prête à se faire tuer.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait la peur du cauchemar, c'est une peur universelle en fait, et puis en plus les personnages, c'est des ados, et pour le coup c'est vraiment des ados auxquels on peut s'identifier, donc c'est quand ça parle, je pense que ça parle très bien à un public ado, enfin, en tout cas moi j'ai découvert le film quand j'étais ado et ça me parlait très bien, et en fait l'inspiration de Wes Craven vient d'un fait divers où il avait lu dans un journal qu'un ado s'empêchait de dormir parce qu'il faisait des cauchemars et il pensait que ses cauchemars allaient le tuer. Donc ses parents lui donnaient des somnifères, ses parents voulaient qu'il dorme, il s'empêchait de dormir pendant une semaine. Et au bout d'un moment, il a fini par s'endormir, donc ses parents pensaient que c'était fini. Et ils ont été réveillés dans la nuit par des cris horribles et le gamin est mort dans son sommeil. Oh. Et quand ils sont allés le voir, ils ont trouvé qu'il y avait des somnifères cachés sous le lit, une machine à café planquée dans un placard. Et c'est littéralement ce que fait Nancy dans le film, en fait, quand sa mère s'en va et qu'elle sort sa machine à café de sous le lit, quoi. Et donc ça, c'est une partie de l'inspiration. Et l'inspiration du personnage de Freddy Krueger, en fait, un soir, quand il était petit, Craven regardait par sa fenêtre de sa chambre pendant la nuit. Il a vu un type louche en bas de chez lui avec un grand chapeau et qui avait un regard hyper malsain, malicieux mais flippant. Et il s'est dit, enfin voilà, plus tard, il s'est dit, c'est lui, Freddy Krueger, ça sera ce mec-là qui était un mec, j'imagine d'un certain âge, mais que ça faisait marrer de faire flipper un gamin parce que le mec le voyait, ouais, ça juste... faisait marrer de le flipper, faire flipper un enfant d'une dizaine d'années dans sa chambre.
C'est vrai que Freddy Krueger, il est aussi très différent parce que Freddy Krueger, donc joué par Robert Englund, qui le jouera de 1984, donc Les Griffes de la Nuit, jusqu'à 2003, Freddy contre Jason, avant d'être remplacé par Jackie Earle Haley pour le reboot de 2010.
Qui n'existe pas.
Qui n'existe pas, là, on va en parler. Il est très différent, par exemple, de Michael Myers, Halloween, et de Jason Voorhees, Vendredi 13, qui sont des boogeyman, donc des tueurs de slasher, un peu monolithiques, qui avancent, un peu armoire à glace, machin. Freddy Krueger est sur un... Et c'est un peu le malin, c'est un peu le Jigsaw, le Joker, ouais. Il fait des blagues, il rigole, il court, il s'amuse un peu, tu sens qu'il a toujours un coup d'avance, mais en même temps voilà, il est sur un autre registre, un peu plus il y a des moments de comédie quand même un peu dans,
ah ouais, oui, il y a des moments de même grand guignol en fait, hein, parce grand que guignol, certaines ouais. de ses apparitions sont plus drôles que flippantes. Et en fait c'était ça aussi l'idée de Wes Craven, c'était de prendre un vrai acteur et de pas prendre un cascadeur, parce que ouais. les Jason, les Michael Myers sont joués par plutôt des cascadeurs, et là il voulait vraiment quelqu'un qui donne une personnalité en fait au boogeyman. Et c'est pour ça je pense que les gens aiment beaucoup ce personnage là parce qu'en fait il a ses punchlines, il a ses phrases incroyables, et puis il a un côté aussi où il torture psychologiquement ses victimes avant de les tuer, alors que les Jason et les Michael Myers, comme tu disais, c'est des tueurs vraiment monolithiques qui vont d'un point A à un point B, qui tuent tous les gens qui se trouvent sur leur passage, jusqu'à tuer, essayer de tuer en tout cas la Final Girl et leur cible. Mais lui, c'est vraiment, il les pourchasse, il leur fait peur, il a vraiment un côté hyper malsain. Puis il y a tout un sous-texte aussi sexuel qui est hyper malsain. Il y a des scènes qui sont vraiment qui me mettent vraiment mal à l'aise quand il y a cette scène de
culte
de la baignoire où Nancy est dans sa baignoire et qu'il y a le gant avec les griffes de Freddy qui sort entre ses jambes, ou la scène où elle est au téléphone, elle téléphone à Glenn qui est le rôle joué par Johnny Depp, et où en fait elle est dans un rêve, comme tu disais tout à l'heure, on sait jamais si c'est vrai ou pas, et il y a cette langue qui sort du téléphone, je crois que le gag, enfin le trucage coûte $5, mais c'est une des scènes qui marche le mieux parce que c'est juste dégueulasse en fait. Et il y a vraiment ce côté-là qui fait que en fait Freddy Krueger devient plus ou moins le héros du film en fait, mmh. où on est autant pour Freddy que pour Nancy.
Ah, comment est-ce qu'il va tuer la prochaine victime, et en plus les morts sont toujours un petit peu du coup étonnantes parce qu'on les attend pas, et puis c'est toujours des grands moments d'hémoglobine et des grands moments visuels aussi avec plein d'idées, des choses assez folles.
Mais c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est ce côté surnaturel et ce côté onirique qui donne une inventivité incroyable en fait dans les morts. Il y a un super docu sur la saga Freddy, bon alors il dure 4 heures donc il faut avoir le temps, mais moi je l'ai regardé plusieurs fois. C'est un docu qui s'appelle Never Sleep Again, The Elm Street Legacy. C'est réalisé par Daniel Farrands et Andrew Cash qui ont fait plusieurs docus sur des sagas. Ils ont fait aussi des docus sur la saga Vendredi 13 notamment. Et en fait, c'est un docu qui est, si on est fan de Freddy, c'est un docu hyper intéressant, mais même si on est fan du genre horrifique, parce qu'en fait, il montre pas mal d'images sur le tournage et des choses qu'on n'avait pas forcément vues avant. Ouais. Il y a aussi beaucoup de membres en fait, de l'équipe des effets spéciaux et du maquillage. Et ils reviennent notamment sur ces morts hyper iconiques de Tina et de Glenn. Donc celle de Tina, c'est celle où elle est traînée au plafond devant les yeux de son copain. Et tout le monde croit que c'est lui qui l'a tué, où elle est traînée au plafond, et en fait ils ont fabriqué une pièce qui tourne en fait pour que elle soit au sol, mais qu'elle ait l'air d'être au plafond. La caméra est à l'envers, donc les caméramans sont à moitié à l'envers. Enfin, c'est vraiment un truc. À la fin, tout le monde était hyper désorienté parce qu'ils sont dans des positions incroyables pour tourner, pour filmer et tout. Et c'est des trucs hyper inventifs pour des budgets qui étaient ridicules en fait.
Ils 1,8 million de budget. C'est
vraiment hyper intéressant.
Ça a l'air en tout cas passionnant. Moi, je sais pas, ça m'a fait penser en le revoyant. Il y avait des scènes qui m'ont fait penser à l'Exorciste. Toi, les scènes médicales où tu vois l'héroïne à l'hôpital avec sa mère à côté qui regarde et qui essaie de comprendre pourquoi elle a ces sursauts, pourquoi son cerveau, dans son inconscient entre guillemets, essaye de la perturber. Donc ils font des analyses, etc. Ça m'a fait penser aux scènes dans l'Exorciste où, pareil, elle a des troubles, du coup elle va à l'hôpital, du coup sa famille, les médecins essaient de trouver. Donc t'as cette dimension, et du coup ça m'avait fait penser de me dire tiens, peut-être que l'Exorciste est peut-être l'un des premiers, une des inspirations qui a pu amener Wes Craven à se dire il y a peut-être un truc à faire avec le slasher et naturel.
Après, c'est une constante aussi dans le film d'horreur et surtout dans le slasher, que dans le sens où les parents ont le côté rationnel. Ouais. Au mieux, ils ont le côté rationnel. Au pire, ils sont juste absents et inutiles.
Les parents sont horribles dans Les Griffes de la Nuit. Hein.
Mais dans, déjà, dans beaucoup de slashers, mais dans Les Griffes de la Nuit, c'est une catastrophe. Ah, la mère est alcoolique. Ah, elle dit « Mais va te rendormir, ma chérie !» Alors que, littéralement, sa fille ramène un chapeau de son rêve et qu'elle reconnaît le chapeau de Freddy Krueger. Elle dit « Non, mais va dormir. » Bah, bien sûr, c'est normal.
Merci, maman. Et donc, la franchise Les Griffes de la Nuit, la franchise Freddy Krueger, comptera au final 9 films. De 1984 donc à 2010, on a donc Les Griffes de la Nuit, on a ensuite, accrochez-vous, hein, La Revanche de Freddy, Les Griffes du Cauchemar, Le Cauchemar de Freddy, L'Enfant du Cauchemar, La Fin de Freddy 2. L'Ultime Cauchemar, Freddy Sort de la Nuit, Freddy contre Jason en 2003, dernière fois où Robert Englund incarne Freddy, puis en 2010, il y a eu le remake, Les Griffes de la Nuit, qui était un remake... j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas trop, que tu ne portais pas trop dans ton cœur.
Non, mais en fait, je connais personne qui m'a dit ce remake est super. Oui, non, je sais pas. Non, mais j'y pensais ce matin et je me disais, mais en fait, personne n'aime ce film, je crois.
C'est d'ailleurs pour ça que depuis 12 ans, il n'y a pas de Freddy Krueger au cinéma. C'est peut-être aussi.
Ouais, et puis c'est vraiment, pour le coup, déjà quand ils ont parfois remplacé les acteurs qui jouaient Michael Myers ou Jason Voorhees, ça a un peu mécontenté les fans. Mais alors là, remplacer Robert Englund, qui est quelqu'un qui a été associé à ce rôle-là et qui l'est toujours, en fait, c'est vraiment le rôle de sa vie. Et du coup, remplacer comme ça quelqu'un dans un rôle aussi iconique, bah, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a une personnalité et qui est aussi bien que lui dans ce rôle-là. Donc c'est très compliqué.
Et donc là, on a une franchise qui fait 40 ans, et donc 40 ans de Freddy Krueger. Quel bilan, toi, tu fais de cette franchise et de...
Je pense que c'est une de mes franchises préférées. Je me refais un petit marathon Freddy tous les ans ou tous les deux ans. Ouais. C'est vraiment un de mes personnages de fiction, tout style confondu, préféré. Donc, j'ai peut-être pas beaucoup d'objectivité sur cette franchise-là.
Alors, on n'est pas là pour être objectif.
Hein. Tant mieux. Non, mais de toute façon, ça n'existe pas, l'objectivité, surtout voilà. Dans le cinéma. Mais c'est en fait, même un des moins bons Freddy, je trouve que c'est quand même toujours beaucoup plus inventif dans les apparitions de Freddy, dans les mises à mort, même parfois dans les blagues. Que le meilleur des Vendredi 13, qui est une saga que j'aime pas trop. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'il y a toujours des choses à sauver. Par exemple, j'aimais pas du tout le deuxième Freddy, qui est assez bizarre parce qu'ils ont décidé de mettre Freddy dans la réalité. Du coup, il y a plein de choses qui marchent pas. Mais en fait, j'ai vu un autre docu sur Freddy, je suis un petit peu monomaniaque, qui s'appelle Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, qui revient sur la vie de Mark Patton, qui est l'acteur qui jouait Jesse, donc le personnage principal, et qui explique en fait que ce rôle a détruit sa vie, parce qu'il y a un très très fort sous-texte homo-érotique qu'à l'époque, soi-disant, personne, même le scénariste, personne n'avait vu. Et alors qu'en fait, c'est évident.
C'est obvious, quoi.
Voilà. Et le film n'a pas marché à cause de ça. Il a été rejeté par le public, parce que j'imagine que le public adolescent masculin, ça devait un petit peu le perdre, ce genre de truc. Et parce que les tropes sont inversées. En fait, c'est un final boy qui crie comme une scream queen. Ouais. C'est sa copine, qui n'est pas vraiment sa petite copine, mais c'est sa copine qui le sauve. En fait, tous les tropes sont inversés. Et c'est assez intéressant à voir. Et ce docu revient sur la vie de cet acteur, voir comment ce rôle a détruit sa vie, ce rôle l'a outé, alors que lui-même, à l'époque, il était tout jeune et il était gay, mais pas out. Ouais. Et il a disparu. En fait, on l'a retrouvé pour le docu dont je parlais tout à l'heure, le docu de 4 heures. Il a été parti vivre, je crois, au Mexique. Il avait ouvert une galerie d'art avec son mari. Et on l'a retrouvé là-bas. Et en fait, ça raconte aussi, c'est assez intéressant parce que ça raconte ce que c'était d'être gay dans les années 80 à Hollywood et aux États-Unis. Il parle aussi de ses amis qui sont morts du sida. Donc il y a tout un truc hyper touchant sur cet acteur. C'est un angle. En fait, moi, je savais pas du tout que le film était devenu un peu un avatar de la communauté gay qui s'est réapproprié un petit peu comme des Rocky Horror ou d'autres films. Et j'ignorais tout ça. Du coup, ça a vraiment fait remonter ce film dans mon panthéon personnel d'effrayé. Ça s'appelle Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Réalisé par Roman Kimenti et Tyler Jensen. Et donc, ça revient sur la vie de Mark Patton, qui, du coup, est très, très touchant. Et ça réévalue vraiment, ça remonte ce film. Ouais.
Est-ce que, à part Les Griffes de la Nuit, et on va doucement glisser vers la fin de notre thème, à part Les Griffes de la Nuit, est-ce que tu as un Freddy que tu aurais envie de conseiller dans les neuf qu'on a cités?
Moi, j'aime beaucoup Freddy 3. C'est un de mes préférés.
Ou alors, les Griffes du Cauchemar.
Je connais pas les titres parce que franchement, les titres sont interchangeables, on va dire.
Oui, c'est ça qui est rigolo.
Mais le 3, puis en plus, les titres entre la traduction, c'est même pas des traductions et tout, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais le 3 est vraiment bien. En fait, il suit une petite équipe d'ados dans un asile, une institution, en fait, un hôpital. Et il y a toujours des apparitions de Freddy qui sont mémorables. Il y a cette fameuse réplique Welcome to Primetime Beach quand il apparaît dans la télé et qu'il encastre la tête de cette pauvre fille dans la télé. Et du coup, c'est, ouais, c'est vraiment un Freddy que moi j'aime beaucoup.
Oh, parfait, voilà qui conclut parfaitement ce premier thème sur le slasher Les Griffes de la Nuit qui arrive dans cette année 1984. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, toujours avec Marie Casabonne, et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission. Elle est belle cette musique. 1984, on l'a dit en préambule, c'est une année de début de beaucoup de réalisateurs. On a Léos Carax qui fait son premier film avec Boy Meets Girl, on a les frères Cohen qui font 100% sublime premier film, et on a dit que c'était aussi une année de, où des trajectoires s'écroissent, puisque 84 c'est aussi l'année de nombreux derniers films de grands réalisateurs. On a David Lean, le réalisateur de Laurence d'Arabie, de Docteur Zhivago, qui va réaliser La Route des Indes, son dernier film, et on a aussi le film qui nous intéresse dans ce second thème, qui est Il était une fois en Amérique, dernier ultime film de Sergio Leone avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern et la toute jeune Jennifer Connelly, qui est donc le dernier film de Sergio Leone, qui raconte, qui suit l'histoire de Noodles, incarné par Robert De Niro, qui est au début du film en plein trip d'opium et qui se souvient de sa jeunesse à New York dans les années 20, de son amitié avec Max, son ami d'enfance, de son ascension dans la pègre aussi et du commerce illégal, bref, de ses aventures de son enfance, de toute sa vie en Amérique, à New York. Et donc c'est un film, toi quand on a discuté de qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'émission 1984, tu m'as dit ah, il faut qu'on parle, Il était une fois en Amérique. Pourquoi tu voulais qu'on parle de ce film-là, Marie?
Parce que c'est vraiment le film somme de Sergio Leone, en fait, qui a toujours fait des films. On a toujours vu sa fascination pour l'Amérique dans ses films, en fait, dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est la conquête de l'Ouest, dans Il était une fois la révolution mexicaine, Il était une fois en Amérique, du coup c'est toute l'époque de la prohibition, l'avènement du gangstérisme en fait aux États-Unis. Même avant ça, avant cette trilogie, dans la brute et le truand, il y avait En toile de fond, La guerre de sécession, il y a toujours c'est un Italien fasciné en fait par ce qu'il
l'Amérique a lu, et ses figures,
voilà, quoi. Par ce qu'il a lu, par ce qu'il a vu, et du coup qui se réapproprie le western, et là qui se réapproprie avec ce film là le film de gangster. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. En fait, c'est vraiment une vision de l'Amérique. C'est un film qui traverse plusieurs décennies. En fait, c'est un film choral aussi, avec plein de personnages, un casting incroyable. Mais disons que le rôle principal du film, c'est le temps. C'est un film sur le temps qui passe. Et le film est incroyablement monté avec des flashbacks, avec des visions du futur. On ne sait jamais vraiment si c'est vrai ou si c'est juste une rêverie de Noodles qui est dans sa fumerie d'opium. Et en fait, c'est un film qui est incroyable. Et surtout, c'est un film qui dure 4 heures.
Tu l'as dit, t'as présenté le film, c'est un film somme. Tu te souviens de toi la première fois que t'as vu ce film? Tu te souviens de sa première vision? C'est toujours délicat de se souvenir de la première vision d'un film.
Pas de ma première vision, parce que je pense que j'ai pas dû le voir dans de très très bonnes conditions. À mon avis, j'ai dû le découvrir de manière téléchargée sur un ordi en 3 heures ou 4 heures. C'est pas le meilleur moyen.
Oui, parce que le film fait 3h49, donc c'est un gros morceau, entre guillemets.
Mais je me souviens de ma première vision au cinéma, c'était il y a, je crois, 5 ans, au Forum des Images, qu'il avait passé dans la version donc, de 3h49, et j'ai trouvé ça incroyable. En fait, quand l'entracte arrive au bout de 2h30, je l'y mets déjà. Alors ouais. Qu'en fait, il y a des films d'une heure 40, 50 qui paraissent bien plus longs, quoi.
Des films d'une heure et demie qui paraissent extrêmement longs.
Et en fait, là, je l'ai revu justement pour préparer cette émission. Là, il y a un cinéma sur Paris, le Christine Cinema Club, qui fait un cycle avec plein de super films. Et il y avait Il était une fois en Amérique, qui passait là il y a quelques semaines. Et du coup, je suis allée le revoir. Là, en plus, ils l'ont dans la version restaurée de 4h11 avec les scènes additionnelles, donc qui ont été récupérées et remontées par la Cinémathèque de Bologne, je crois. Ouais. Et c'est vraiment la version qui existe à ce jour la plus proche de celle que voulait Léon. Du coup, c'est passionnant à voir. Donc là,
t'as revu 4h11 d'Il était une fois en Amérique pour l'émission?
Ouais.
Et alors?
C'était super. Et je le reverrai, je crois qu'il repasse demain soir. Et voilà, donc c'est toujours des très très grands moments de cinéma.
Et tu l'as dit, c'est un film somme pour Sergio Leone. Donc c'est quand même un projet, Il était une fois en Amérique, c'est un projet de très longue date pour Sergio Leone, puisque c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle À main armée de Harry Gray, qui sort au début des années 50. Et Léon découvre le roman au début des années 60, lui. Pendant 20 ans, il va essayer comme ça d'adapter Il était une fois en Amérique, enfin Amarmé pour ce qui va devenir Il était une fois en Amérique. Il va essayer comme ça de l'adapter. Il va même refuser de réaliser Le Parrain dans les années 70 pour dire non, je ne veux pas faire Le Parrain, je préfère faire mon projet parce que j'ai l'impression qu'il va décoller, etc., etc. Finalement, il décollera que 10 ans plus tard. Il regrettera d'ailleurs de ne pas avoir fait Le Parrain réalisé par Coppola.
On lui a assez fait remarquer aussi. j'ai écouté là, la conférence de presse de suite à la projection de Cannes où il y a un ou une journaliste qui lui dit « Ouais, votre film, il est bien, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir revu Le Parrain et du coup, c'est quoi l'intérêt ?» C'est hyper dur, mais j'ai entendu ça, mais mon cœur était brisé. Quoi. C'est,
le pauvre, se rend compte, il tire un projet pendant 25 ans et puis on lui dit « Mais en fait, c'est un... »
En fait, ce film, il a déjà été fait, alors qu'en fait, non, pas du tout.
Non, pas du tout. Et donc, finalement, après 20 ans à essayer de faire le film, parce qu'entre-temps, il aura quand même réalisé La Brute et le Truand, etc., etc., le tournage du film se passe de juin 82 à mai 83, donc tournage extrêmement long, quasiment un an. Et au final, le film est extrêmement long, donc coupé par la Warner, qui le sort en salle dans une version de 2h20. Les gens n'y vont pas, parce que quand tu coupes un film qui est censé te faire 4 heures en 2h20, c'est incompréhensible.
Ben surtout que cette version de 2h20, en fait, c'est un montage chronologique.
Voilà.
Et du coup, il n'y a aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. On perd une grande partie de l'intérêt du film qui est, en fait, tout
le
ce flashback.
Le flashback.
Tous ces flashbacks. En plus, la musique d'Ennio Morricone, en fait, lit les moments. Il y a plein de transitions, en fait, quand Noodles regarde Deborah danser et il y a ses plans sur ses yeux dans le trou dans le mur avec la musique et on passe d'une époque à l'autre, il y a plein de choses comme ça, et du coup, si on le remet dans l'ordre, ça, on perd un grand intérêt.
C'est vrai que c'est un film, on l'a évoqué au début, j'ai cité le synopsis au début, c'est un film où on va suivre Robert De Niro qui va se balader dans ses souvenirs, parce qu'il est dans ses vapeurs d'opium, et où comme ça, on va repartir dans son enfance, faire un bond dans le temps, et on va le voir très vieux, on va le voir très jeune, et du coup, toutes ces images vont... C'est un film de mémoire, c'est un film de souvenirs, c'est un film de quelqu'un qui regarde en arrière sur sa vie, et c'est pour ça aussi que c'est peut-être aussi un film sur Sergio Leone lui-même, qui regarde en arrière sur sa vie, et sur un film sur ce qu'il a construit en tant que personne, et donc ces films américains, ce cinéma américain, ces mythes américains, tu l'as dit au début, ces films de gangsters.
J'ai une petite citation, parce que j'ai un peu fait mes devoirs avant de venir, et en fait, je crois que c'est toujours quelque chose qu'il a dit pendant cette conférence de presse à Cannes. Il dit « Je ne pense pas avoir fait un film uniquement sur le gangsterisme, en tout cas, je l'espère, j'ai fait un film sur mes souvenirs, et mes souvenirs proviennent des livres de genre que j'ai aimés quand j'étais jeune. » Comme je crois tous les hommes de ma génération, le sous-titre du film pourrait être « Il est aussi un certain genre de cinéma ». En fait, c'est vraiment un hommage au cinéma qu'il a aimé et à toutes ses références. C'est aussi un film qui brasse plein de thèmes, en fait. C'est un film sur l'amitié. Il y a souvent des histoires d'amitié dans ses films, en fait. Il cherche toujours l'amitié, il le disait lui-même, en fait. Il était un enfant, il était fils unique. Et il a toujours cherché, il a beaucoup souffert de ça, il a toujours cherché des amis, et il a toujours des histoires d'amitié au centre de ses films, mais c'est toujours des amitiés viriles, mais des amitiés trahies, il y a toujours des trahisons.
Des compliquées, tu vois, des trucs comme ça.
C'est toujours des personnages, en fait, c'est jamais manichéen, c'est toujours très ambivalent. Avec des...
Et on redevient toujours seul à la fin, un petit peu.
C'est ça, et c'est toujours... C'est pas nihiliste, mais c'est jamais très très optimiste. Quoi.
Et c'est vrai que Sergio Leone, pour le rappeler, c'est quand même quelqu'un qui a grandi toute sa vie dans le cinéma. Ses parents étaient acteurs et dans le monde du cinéma. Lui, il a grandi sur les plateaux, il a été assistant, il a commencé assistant, après il a été scénariste, et puis petit à petit, on a commencé à lui donner des films. Et donc, ça aboutit en 84 à ce dernier film. Et c'est vrai que Il était une fois en Amérique, etc., mais c'est un film qui parle aussi et surtout de cinéma, on l'a vu avec la citation. Est-ce que Il était une fois en Amérique, on peut dire que c'est le film le plus personnel ou le plus intime de Sergio Leone?
Je pense que c'est le plus personnel parce que c'est celui qui lui tenait le plus à cœur, en fait. Et quand il faisait ses autres films, il pensait toujours à celui-là en disant « Bon, allez, je fais un western de plus, mais après, je ferai celui-là. » Et c'est un projet vraiment, comme tu disais, qu'il a habité pendant 20 ans. Il a, je crois, écrit le scénario. Il y a une vingtaine de scénaristes. Ils ont fait d'innombrables versions du scénario pendant 12 ans. Et je crois qu'il y a 5 scénaristes qui sont crédités, mais il y a vraiment 20 personnes qui ont travaillé dessus pendant des années et des années. En fait, c'est vraiment un projet gargantuesque, c'est le projet de sa vie. Et ça se voit aussi dans le film lui-même, parce que sur la durée, parce que lui, à la base, avec toutes les images qu'il avait, il pouvait faire 10 heures de film. Ouais. Il aurait voulu faire une version de 6 heures, donc deux films de 3 heures. Et c'est pour ça aussi que ça a été un crève-cœur quand ils ont sorti cette version, je crois, de 2h19 ou 2h20. Ça lui a brisé le cœur. Il voulait retirer son nom du générique et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur et sous cette forme-là. Et aussi, donc, tu disais, le tournage a été très long. C'était 45 ou 50 semaines de tournage, un budget énorme. de plus de 50 millions de dollars. Le casting aussi est assez incroyable parce qu'il y a De Niro, il y a James Woods, il y a Elizabeth McGovern, Jennifer Connelly, Joe Pesci, plein d'acteurs.
C'est le premier film de Jennifer Connelly d'ailleurs, actrice qu'on a pu voir dans Requiem for a Dream et dans plein d'autres films récemment, mais qui a quand même à son CV, j'ai tourné dans le dernier Sergio Leone et ça c'est quand même la classe.
Et qui a ces scènes incroyables où elle danse dans où lui la regarde, elle danse dans ce petit nuage de farine avec ce thème dans qu'on a accepté. C'est incroyable. Enfin moi rien que d'entendre ça, j'en ai les larmes aux yeux. Cette musique elle est incroyable et ces scènes elles sont hyper belles. Ça a été aussi tourné dans plein d'endroits différents. C'est tourné aux États-Unis, à New York, à Boston. C'est tourné en Italie, à Cinecittà, en France. Je crois que ça a été tourné à Biarritz, à Nice, donc dans la gare du Nord qui est censée être la gare de New York. Et apparemment, alors j'ai lu ça mais je l'ai pas vu, du coup faut que je retourne voir le film, mais apparemment quand Jennifer Connelly part à Hollywood, on voit un logo SNCF quelque part, donc maintenant mon but c'est de revoir 4h11 de film pour spotter ce petit logo SNCF.
Une production assez massive, voilà, pour aboutir à ce film qui est finalement très intime.
Et c'est fou de voir l'ampleur du projet et
qui n'aura pas marché au box-office.
Et en fait c'est un truc qui lui l'a beaucoup beaucoup touché parce que c'est vraiment un échec hyper personnel pour lui. D'ailleurs je crois que à Cannes le film a été autant acclamé que décrié. Je parlais tout à l'heure de cette conférence de presse où les gens lui reprochent d'être misogyne, où les gens lui reprochent d'être nihiliste. Enfin, il y a plein de choses assez dures à encaisser pour lui. Et parfois, on entend même dans ses réponses, il comprend même pas les critiques, en fait. Je crois qu'il a fait, ça l'a beaucoup affecté, et qu'il a fait une crise cardiaque assez vite après. Ouais. Et 5 ans plus tard, il est mort. Il a fait une crise cardiaque chez lui.
C'est vrai que Sergio Leone, au final, entre 61 et 84, donc dans toute sa carrière de réalisateur, en tout cas, parce qu'il a été également scénariste sur plein de films avant, il aura fait que 7 films officiellement, Le Colosse de Rhodes pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution et donc Il était une fois en Amérique finalement. Il a fait quelques pubs dans les années 80 où il a fait des pubs pour des voitures ou des pubs pour des yaourts. Vous pouvez regarder, il y a cette patte Sergio Leone avec la BO de la musique de Morricone par-dessus. Que 7 films en 25 ans, tout de suite je me suis dit, est-ce qu'on a des regrets sur sa filmographie? Parce que tu te dis, un cinéaste comme ça, t'aurais aimé voir plus de films, t'aurais aimé voir toutes ces histoires qu'il a racontées. Est-ce que t'as un regard sur sa carrière, un regret
Évidemment, moi j'aurais aimé en voir plus, j'aurais aimé voir d'autres films. Je sais que quand il est mort, il travaillait sur un autre projet de film, je crois sur le siège de Leningrad. Après, c'est sûr que...
Ça aurait été fou ça.
C'est sûr que voilà, on aurait toujours voulu en voir plus, mais bon, moi j'ai tendance à essayer de me forcer à voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide et me dire qu'on a quand même des chefs-d'œuvre qui sont absolument incroyables. C'est des films hyper iconiques. Enfin, moi, avant de les voir vraiment sérieusement au cinéma et tout, c'est des trucs... Tu connais la musique, tu connais des scènes parce que ça a été repris, ça a été montré partout, ça a été parodié et c'est vraiment des monuments du cinéma et du coup c'est sûr que c'est peu en termes de nombre de films, mais c'est des films qui sont longs. Je sais pas, moi je trouve que
chaque film touche au but à chaque fois et chaque film est une marque indélébile.
En fait, je peux pas dire qu'ils sont tous parfaits, mais quand même c'est une filmo qui est que je trouve assez irréprochable en fait. Et du coup, c'est sûr que j'aurais aimé en voir plus, mais je me contente de ce qu'on a et je trouve ça incroyable qu'on puisse toujours les voir au cinéma aujourd'hui. Et quand je suis devant ces films-là, ils ont duré 3 ou 4 heures, je suis dans le film, je suis vraiment dedans et je trouve ça incroyable.
Pour terminer ce second thème, moi je voulais juste dire que c'est vrai que ce film-là, en le revoyant en tout cas préparé à l'émission, ça m'a fait penser à c'est bête parce que c'est un film qui du coup forcément référence automatiquement Sergio Leone. Ça m'a fait penser à Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood, qui est aussi un film... qui parle de cinéma, qui est aussi un film qui parle de souvenirs, de mémoire, de cette période fantasmée qui est l'enfance, etc., etc. Et qui est aussi un peu ce film d'enfant triste. C'est un film très mélancolique, comme Il était une fois en Amérique, sur je regarde une époque qui est révolue, qui n'existera plus, que je fantasme aussi, parce qu'en plus Tarantino, on voit ça à un autre niveau, parce qu'il refait l'histoire, mais du coup, ça m'a beaucoup fait penser à Il était une fois à Hollywood.
Oui, et puis de toute façon, Tarantino se place un peu en héritier autoproclamé, certes, mais de Sergio Leone, en fait.
On va lui laisser ça. Moi, je lui laisse ça à Quentin. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème sur Il était une fois en Amérique, le dernier film de Sergio Leone, sorti également en 1984. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission. Cette musique, vous l'avez peut-être reconnue, c'est celle de l'un des films dont on va parler dans ce troisième thème, puisque celle de Gremlins. Puisque Gremlins, avec un autre film, Indiana Jones et le Temple Maudit, vont être deux films qui vont être les instigateurs d'un bouleversement, on va dire, de l'industrie du cinéma américaine, vont être l'instigateur du ce qu'on appelle le PG-13, le PG-13. Alors, avant même de commencer et de plonger dans le thème, Marie, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le PG-13
Alors, le PG-13, c'est littéralement...
PG-13.
Voilà, c'est en fait, c'est accord parental recommandé, je crois, et film déconseillé au moins de 13 ans.
Ah, c'est une classification donc, c'est vraiment, de voilà, public. Quoi.
C'est vraiment la classification. Nous, en France, on a, je crois, interdit au moins de 12 ans.
Voilà.
Et là, aux États-Unis, c'est 13 ans. Et donc c'est une nouvelle classification qui vient un petit peu se rajouter, comme tu disais, entre deux qui existaient avant, qui étaient le PG et le R. En fait, il y avait un gros gap entre ces 13 ans et ces 17 ans. Quoi.
Effectivement, on va parler de classification de ouais. films de cinéma, mais vous allez voir, c'est vachement bien parce que en fait, avant 84 aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de classification. C'est-à-dire qu'il y a général, G, tout public, donc tous les films sont ouverts au public. Il y a M, mature, qui est conseillé à un public adulte. Il y a R, restricted, interdit au moins de 16 ans, et après c'est le X. Donc en fait, il y a trois classifications majeures, mais c'est vrai que du coup, en fait, c'est une classification qui date des années 60, 70, qui est un peu datée, et on arrive en 84 avec des films Gremlins ou Indiana Jones, qui sont des films familiaux. Aujourd'hui, c'est des films avec des enfants, dans Gremlins, il y a Gizmo, il y a des personnages un petit peu rigolos, mais qui ont aussi des scènes assez visuelles, un petit peu gore. On pense au Temple Maudit, la scène de l'arrachage du cœur, qui peut être un peu saisissante. Et en 84, ces films-là, Indiana Jones et Gremlins, quand ils sortent, ça crée une polémique. Comment on peut donner ça à tout public? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Et du coup, on en arrive à la question de comment va naître ce PG-13.
C'est ça, parce qu'en fait, Gremlins attire un peu les enfants en salle et les parents envoyaient les enfants en salle.
C'est mignon,
sur,
Gizmo, mignon.
C'est ça, sur l'affiche, il y a Gizmo, c'est mignon et tout. Et en fait, mais il y a aussi le côté, je crois que c'est Spike, le chef des méchants Gremlins. Et il y a cette scène dans le blender et cette scène dans le micro-ondes. Et,
moi, je pense à la vieille qui se fait balancer avec son.
Ah, tu vois, j'avais même oublié celle-là, tu vois.
De sa fenêtre du premier étage.
Ouais, mais elle était méchante, donc elle le mérite parce qu'elle voulait tuer son chien.
C'est rigolo, tu vois pas grand chose, mais c'est rigolo.
mais oui, voilà, c'est des. Et pareil pour Indiana Jones, hein, ça mange de la cervelle, ça arrache un cœur vivant. Indiana Jones, c'est un des premiers souvenirs que j'ai. Je me suis dit, genre, waouh, c'est.
Oui, maintenant, c'est vrai qu'on regarde, on est en 2021, on se dit, bon, oui, effectivement, c'est daté, ça nous étonne plus trop, mais en 84, faut imaginer que.
Et puis avec nos yeux d'enfant,
voilà.
En 84, on n'était pas nés, mais.
Mais tu sais, quand t'as 10 ans et que tu regardes ça, ça peut être choquant.
C'est ça, puis on se rend pas forcément compte aujourd'hui avec nos regards de trentenaires un peu blasés. Qui avons vu plein de films, mais c'est vrai que c'est des choses un peu compliquées pour des enfants. Et comme tu disais, voilà, en fait, il y a ce fossé entre le tout public et le interdit au moins de 17 ans. Et tu dis, ouais, mais en fait,
entre les deux, il y a peut-être un truc à faire.
Voilà, entre 12, 13 ans et 17 ans, on peut voir des choses qu'on peut. Il y avait un fossé à combler, en fait.
Il fallait revoir cette classification.
C'est ça.
Et c'est drôle parce que, mine de rien, ce PG-13, là, on cite Gremlins et Indiana Jones 2, c'est deux films qui sont liés. Par un seul homme qui est Steven Spielberg. Il en réalise un, il en produit un autre. Du coup, Steven Spielberg va être à l'origine de ce changement de classification.
Ouais, c'est lui qui est à l'origine de ça, en fait, parce que même déjà à l'époque de Jaws, en fait,
Des
Dents de la Mer, ça avait déjà été un petit peu polémique. Et en fait, c'est lui qui dit il y a un fossé à combler, en fait, entre ces deux classifications. Donc, c'est lui qui va voir la MPAA, qui est la Motion Picture Association
America. Ouais.
C'est le comité de censure qui était à l'origine du code Hays dans les années jusqu'aux années 60, ouais. et qui gère ces classifications. Lui va voir le président de la MPAA de l'époque. Il veut pas que ces films. Déjà à l'époque, quand il avait produit Poltergeist, et il voulait pas que Poltergeist soit classé R.
Oui, parce que imagine, tu coupes tout un pan du public qui va pas au cinéma, donc c'est de l'argent perdu, et donc il y avait vraiment cette problématique économique.
C'est ça, en fait, c'est qu'aussi t'as une grosse problématique économique parce que t'as aussi toute une vente de produits dérivés, ça va des jouets, des figurines, des personnages du film, aux partenariats sur, je sais pas, des boîtes de céréales, des machins. En fait, tu te coupes tout un public. public qui fait acheter aux parents les dernières Kellogg's avec les Gremlins ou ce genre
de
trucs.
Et Poltergeist, c'était flippant. Hein. Déjà, Spielberg avait un peu remué la question avant, parce que Poltergeist, c'était déjà...
Je pense que Poltergeist, en le faisant passer PG, ça a quand même traumatisé une génération d'enfants que les parents ont envoyé en disant « c'est bon, tu peux le voir, t'as l'âge ». Et je pense que ça a traumatisé un petit peu des gens à l'époque. Quoi. Et à l'époque, alors le président de la MPAA à l'époque s'appelle Jack Valenti, et c'est assez étonnant parce que je le trouve assez détendu sur la question, parce que lui, à l'époque, il disait qu'il préférait laisser le libre choix aux parents en disant « non, mais comment vous pouvez savoir ce que les enfants peuvent voir ou pas ?» Et il a fait cette déclaration « je pense que les parents doivent d'abord voir le film sans leurs enfants pour décider ensuite ». Et aujourd'hui, certains parents ne s'en soucient pas et ont abandonné leur responsabilité. En fait, c'est vachement bien.
Vous voulez que les gens voient le film deux fois, une fois tout seul.
Ça fait vachement plus d'entrée et tout, c'est pas mal. Mais en fait, quand t'es président, c'est un peu fou de dire de rejeter. C'est ça, en fait, de rejeter la responsabilité sur les parents, alors que, mec, c'est littéralement ton job, en fait, de faire ça. Et du coup, c'est Spielberg qui insiste. Parce que lui, il a été très très critiqué pour Indiana Jones et pour Gremlins la même année. Ouais. Il dit que c'est vrai que certains jeunes enfants ont pu être choqués par Jaws, mais il aurait été injuste de l'interdire aux spectateurs de 13 à 16 ans. Mmh. Et donc finalement, la MPAA finit par céder. Donc Spielberg lui dit, on peut appeler ça PG-13, PG-14, c'est vous
qui
voyez
13 ou 14, vous mettez
quel âge
la barre,
vous mettez. Et donc finalement, la MPAA met la barre à 13 ans. Le premier film PG-13 va sortir cette année-là.
Exactement, puisque le 1er juillet, du coup, grâce à Steven, qui bouscule un peu les gens de la MPAA, qui font pas leur taf, création le 1er juillet du PG-13, qui a comme intitulé « Parents fortement avertis, certains contenus peuvent être inappropriés pour les enfants de moins de 13 ans ». Donc là, il y a cette limite qui se crée, donc ça met cette limite. Du coup, les parents peuvent quand même décider. On avertit les parents, mais on les interdit pas, véritablement. C'est juste un conseil. Et comme tu l'as dit, les premiers films PG-13 sortent en 84. On a Le Kid de la plage de Gary Marshall. On a L'Aube rouge de John Milius. On a La fille en rouge de Gene Wilder. Dreamscape de Joseph Ruben. Et Le Dune de David Lynch, qui font partie des premiers films PG-13 en 84. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, le PG-13 est la catégorie maître, reine, du cinéma américain, puisque Star Wars et PG-13, Avengers, Avatar, Titanic, Jurassic World, tout ça c'est PG-13, comme quoi ça répondait bien quand même à un besoin de, comme tu l'as dit, combler ce gap, combler cet écart entre deux catégories. Comment est-ce que tu pourrais, toi, expliquer le fait que c'est devenu la classification la plus populaire aujourd'hui?
En fait, c'est une classification qui est parfaite en fait pour l'industrie, parce que ça va attirer un public d'ados qui savent que c'est pas un film familial ou pour enfants, donc il y a ce petit truc où on sait qu'on va voir peut-être des choses un petit peu violentes.
C'est pas un truc pour bébé.
C'est ça. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est l'âge, 13 ans, c'est un peu l'âge où on commence à aller au cinéma et tout, et on n'a plus envie d'aller voir comme tu dis, des trucs pour les bébés.
On a envie de l'interdire, on a envie de voir où est-ce qu'on peut aller, et du coup.
C'est l'âge où tu testes les limites. Et là, tu dis, ma limite, c'est ça, je vais y aller, quoi. Et les parents peuvent envoyer leurs enfants parce qu'ils savent que la violence ou les contenus, le langage ou les scènes de sexe seront très, très limitées. Donc, ça assure en fait au studio le public le plus large possible, parce que les adultes peuvent aussi y aller, parce que c'est orienté jeunes adultes, en fait, on va dire. Et donc, tu brasses un public super large. Et de toute façon, aujourd'hui, si tu fais un film R, tu parlais des films des Marvel, des interdits aux moins de 16 ou 17 ans, tu te prives d'une énorme partie de tous ces ados qui vont aller voir le film avec leur argent de poche, qui vont se faire acheter à Noël ou à leur anniversaire telle figurine de tel super-héros.
C'est des centaines de millions de dollars, et ça, les Américains, les studios, ils peuvent pas se permettre de passer un film en R, par exemple, alors qu'ils pourraient l'avoir en
C'est ça, en fait, c'était le débat avec Deadpool ou Logan, des films comme ça qui sont, du coup, beaucoup plus adultes et beaucoup plus graphique. À l'époque, dans les années 80, avant 84, les films R, il y en avait certains qui étaient dans le haut du classement du box-office, en fait. Il y avait, je crois, Le Flic de Beverly Hills, il y avait des films comme ça, qui avaient
super... L'Exorciste, je crois que ça a été un film R, c'est l'un des plus gros succès du cinéma.
C'est ça, c'est des films qui ont super bien marché. Et en fait, aujourd'hui, alors j'ai pas la liste sous les yeux, mais si tu regardes tous les premiers du box-office, en fait, je pense que dans les 20-30 premiers, t'as pas un seul film classé R.
Effectivement, les plus grands succès de l'histoire du cinéma restent Avatar, Star Wars, etc., donc des films PG-13. Tous les plus grands succès restent des films PG-13. Mais ce qui est drôle, c'est que ça a créé, le fait de créer un PG-13, ça a rehaussé la tolérance des spectateurs pour du contenu peut-être un peu plus compliqué. Un peu comme peut-être Les Griffes de la Nuit, d'ailleurs, qui a peut-être redessiné un peu les frontières de l'horreur ou du slasher, etc., etc. J'ai l'impression que, comme le PG-13 a été créé, ça a permis à plein de films de voir le jour, de trouver leur public, et du coup, ça a permis à la catégorie R, qui était un peu avant un truc de niche, très graphique, très violent, et pour des... C'était un peu, t'étais un peu mal vu si t'allais voir un film R. Maintenant, R, Deadpool, c'est classé R. Hit, ça, c'est classé R. de Joker, Matrix, c'est classé R. Donc, t'as des gros blockbusters qui génèrent des millions et des millions de dollars dans le monde, qui font 700, 800 millions de dollars dans le monde, qui sont classés R. Ça a eu un espèce de ruissellement comme ça.
Ouais, mais c'est assez rare en fait, parce que moi je trouve que du coup le PG-13, c'est orienté adulte, mais ça reste quand même assez peu graphique, et notamment au niveau de la violence. Je pense que ça amène quand même une uniformisation de la production du cinéma. Et tu sais que quand tu vas voir, bon, forcément un Marvel, parce que c'est des enjeux économiques qui nous dépassent tous, mais oui. Tu sais que quand tu vas voir un film PG-13, enfin moi qui viens beaucoup du cinéma de genre et d'horreur, bah je sais que je vais rester un petit peu sur ma faim, sur le côté graphique en fait. Je trouve que c'est il y a un côté où ça manque en fait de réalisme, parce que c'est des films où tu peux avoir des morts mais t'as jamais de sang. Ouais. Et moi il y a un truc qui m'avait frappé, je pense que c'est le meilleur et le pire exemple de ça, c'est le film World War Z qui est un film de zombies. Et je me souviens, je l'avais vu en projet de presse, on nous avait distribué des petits anti-stress et tout. Et en fait, c'est le premier film de zombies sans une goutte de sang. Ouais. Pourtant, t'as des tonnes de morts et tout. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça un film de zombies PG-13, en fait. Et pour moi, c'est un peu antinomique de vouloir... Bon, alors évidemment, c'est du blockbuster, il y a Brad Pitt dedans. Donc, c'est du film ado, presque familial et tout. Et tu dis, bah ouais, forcément, ça amène des aberrations comme ça, où t'as voilà, des films d'horreur où t'as pas du tout de sang, et où bah, sur les films d'horreur, on va se concentrer sur du jumpscare, et qui est le degré zéro de comment faire peur au cinéma. Hein. C'est, voilà, c'est forcément, ça marche, mais c'est
et
comme...
Et à l'inverse, t'as des films R qui vont dire, regardez, nous, on est R, ouais. Deadpool et tout, regardez, nous, on va vous faire peur. Suicide Squad récemment a dit, nous, on est R, on rend du gore, et du coup, ça...
Et qui vont dans la surenchère, en fait, et que moi je trouve aussi un peu, je sais pas, un peu pas malhonnête, mais un peu genre, regardez, on est hyper subversif, alors qu'en fait, on subvertit rien du tout.
Bah, du coup, je voulais me poser la question, parce que du coup, là, on est sur cette question de la classification, du spectateur aussi par rapport au film, et de l'évolution des goûts du spectateur. Qu'est-ce que ça raconte du spectateur, ces évolutions-là? Toi, avec Panic Cinéma, où tu proposes des séances comme ça qui vont quand même un peu chahuter les spectateurs, ou en tout cas créer le dialogue, ou. T'as quand même l'envie, l'ambition de bouger un peu le spectateur dans ses retranchements?
Bah moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est qu'un film me fasse ressentir des choses. Ouais. Alors que ce soit des choses agréables, que ça me fasse pleurer, que ça me fasse... Et même un film qui me met mal à l'aise, du moment qu'il se passe quelque chose physiquement à l'intérieur de moi, je trouve ça cool.
Ah, c'est intéressant ça.
Et en fait, les films PG-13, il se passe pas grand-chose pour moi, en tout cas pour moi.
Oui, mais pour les enfants de 13 ans, peut-être.
Voilà,
que...
mais moi je ne suis plus un enfant de 13 ans depuis longtemps, du coup, voilà. C'est sûr que nous, avec Panic Cinéma, c'est vrai que moi je fais jamais attention aux classifications et que parfois, quand on rédige les textes pour le programme du Forum des images, je me dis attention, rappelez bien qu'il est interdit au moins de 12 ans. Je fais ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ou parfois, ça nous invite de passer des films interdits au moins de 16. Et parfois, je tombe des nues en me disant ah ouais, ça, c'est interdit au moins de 16. Et...
Alors qu'il n'y a rien du tout.
Ouais, alors qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est aussi des films qui sont sortis à une certaine époque et les classifications ont aussi changé depuis.
C'est vrai qu'il faut bien faire le distinguo aussi. Là, on parle d'une classification américaine avec une sensibilité très américaine. Nous, en France, on a une classification qui est tout autre. Donc, on a moins de tout public, moins de 10, moins de 12, moins de 16, etc., etc. Mais par exemple, un film comme La vie d'Adèle, je prends un exemple parce que j'y ai travaillé à ce moment-là, au CNC, il a été classé 12 ans avec avertissement. Donc, quelqu'un de 13 ans pouvait aller voir La vie d'Adèle. Hein. Alors qu'aux États-Unis, il a été interdit au moins de 17 ans.
Ah ouais.
Donc, c'est-à-dire que Spielberg, quand il donne la palme d'or à La vie d'Adèle, il donne la palme d'or à un film qui ne sera pas diffusé dans son pays. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Alors qu'en France, on peut le montrer à des enfants de 13 ans. Donc, il y a vraiment aussi une différence de culture.
Ouais, puis il y a ce côté très puritain des États-Unis, en fait, où oui. On en parlait déjà aussi dans la première partie sur le Slasher, où il y a énormément d'associations de parents et même les critiques eux-mêmes, il y a des critiques qui se lèvent contre des films en disant ah mais c'est inadmissible de montrer ça, alors qu'en France c'est pas du tout un débat qu'on a. On a quelques associations qui vont essayer de faire interdire des trucs de temps en temps, mais c'est vraiment pas aux États-Unis. Il y a eu notamment des slashers où les gens allaient manifester devant les cinémas, même plus récemment je sais que c'est arrivé avec des films de Kevin Smith, alors que c'est juste films de sale gosse en fait, quoi. Et c'est assez drôle de voir le décalage avec peut-être nos yeux d'Européens, tu vois, mais ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en France, et c'est pour ça que moi je tombe souvent des nues quand je vois les classifications, quoi.
Eh ben parfait, merci beaucoup Marie. Voilà qui conclut doucement ce troisième thème de notre émission. Mais bien sûr, avant de se quitter, on va se retrouver pour un petit tour du monde et nos recos coup de cœur de cette année 1984. Alors ce tour du monde final, effectivement, on le rappelle, hein, ça nous permet, nous, de partager, de citer ces films qu'on n'a pas pu évoquer dans l'émission, qui n'ont pas pu rentrer dans les thèmes dont on a parlé, mais qu'on aime bien cette année-là, 84. Toi, Marie, est-ce que tu as un film en 84 que tu voulais mettre en avant?
Ouais, je vais encore rester dans le cinéma très, très américain cette année-là, mais moi, je voulais parler de Terminator, parce que c'est un de mes souvenirs d'enfance. Alors moi, je les ai vus un peu n'importe comment. Je pense que ça fait partie des films dont j'ai vu beaucoup de fois le début, et après, on m'envoyait me coucher, parce que mon père me laissait regarder le début, ma mère arrivait en disant « Mais qu'est-ce que tu lui fais regarder ?» Va au lit tout de suite.
Donc, t'as vu Terminator pour la première fois à quel âge?
Bah, je sais pas, je devais avoir peut-être plus ou moins 10 ans, mais je l'ai pas vu en entier. En fait, c'est des trucs où je voyais. Bah, ouais, tu vois, quand je te dis que mon curseur. Quand je te dis que mon curseur est déplacé au niveau du.
Si mon invité a des curseurs déplacés, qu'est-ce que.
Bah, ouais, mais c'est compliqué, tu vois. Donc, ouais, j'ai vu. En fait, je les ai vus assez jeunes, mais même pas en entier. En fait, j'ai vu des moments. Du coup, c'est pour ça que dans ma tête, les deux premiers Terminator se mélangeaient un petit peu. Et en fait, c'est vraiment des images que j'ai d'enfance avec Schwarzenegger tout nu qui débarque, qui est vraiment le robot, l'homme, enfin la machine, qui est l'homme parfait, qui est cette machine inéluctable qui arrive toujours, la machine ouais. à tuer littéralement, quoi. et c'est vraiment un film que, bon, moi, je me souvenais beaucoup pour le côté SF, action. Et en le revoyant il y a quelques années, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi un super film d'amour, c'est un film de voyage dans le temps, c'est enfin bon, je sais pas si tout le monde connaît le film, mais c'est...
Voilà, le premier Terminator, les gens peut-être ont peut-être plus le Terminator 2 en tête, mais c'est vrai que Terminator 1, 84, il a presque 40 ans aujourd'hui. C'est toujours intéressant de le revoir.
Et c'est fou, parce que en fait, c'est une petite série B, parce que c'est, comme tu dis, oui, c'est vrai que c'est un peu comme Mad Max, on a toujours l'image du 2. Ouais. Et en fait, revoir le premier, c'est toujours intéressant. Donc c'est en 2029, la guerre, la Terre a été plus ou moins rasée avec une explosion nucléaire, et c'est la guerre des quelques derniers survivants humains contre les machines, et notamment les Terminators. Et comme la résistance commence à reprendre du terrain, en fait, on envoie un Terminator dans le passé, donc à l'époque contemporaine du film, pour tuer Sarah Connor, qui est la mère de John Connor, le messie, plus ou moins, avec les mêmes initiales, qui va
le leader de l'humanité.
C'est ça, c'est le leader des dernières poches de résistance humaine, et donc on envoie ce Terminator pour éliminer Sarah Connor, pour que John Connor ne naisse jamais, voilà. Et la résistance envoie elle-même un Kairis dans le passé pour qu'il sauve Sarah Connor, pour qu'il permette à John Connor d'exister. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire de Kairis, pardon, qui remonte le temps pour sauver la femme qu'il aime, mais sans le savoir, parce qu'ils ne se sont pas encore rencontrés. Donc en fait, ça pose tout un tas de questions.
Il va bien aider John Connor à exister, hein, Kairis.
C'est ça.
Parce que du coup, au final, sans spoiler, mais...
Bah ouais, et c'est ça qui est... En fait, ça pose plein de questions sur le voyage dans le temps, en fait, même des questions philosophiques. Enfin, c'est assez intéressant, et c'est drôle de voir que c'est ce Terminator, en partant dans le passé, c'est lui, au final, qui va créer la Sarah Connor qu'on connaît dans le 2, parce que c'est pareil, Linda Hamilton, elle est hyper iconique dans son rôle de d'héroïne badass qu'on voit dans le 2, mais dans le premier, c'est pas du tout ça. Dans le premier, elle est serveuse, et elle dit, en fait, quand on lui dit il faut qu'on te sauve parce que tu vas être la mère de c'est toi qui vas apprendre à John Connor à survivre et tout ça, elle fait non, mais moi, en fait, j'arrive même pas à gérer mon agenda, comment tu veux que j'apprenne à mon fils d'être le leader de la rébellion, tu vois. Du coup, c'est hyper intéressant de voir Linda Hamilton en devenir, en fait, de cette Sarah Connor. Donc c'est un film d'amour, un film d'action, de SF. Il y a aussi des côtés un petit peu film d'horreur. Moi, j'ai des souvenirs terrifiés de quand j'étais gamine.
C'est une scène qui rappelle le slasher, qui rappelle c'est Sarah Schwarzenegger, et vraiment cette personne monolithique, un peu.
Exactement.
Comme...
Exactement, il fait Boogeyman. Et puis c'est ça, puis dans le film, il doit avoir 20 répliques à tout casser. Bon, des répliques hyper iconiques, hein, mais le I'll be back et tout ça. Mais c'est vraiment le... Ouais, il a ce côté force inéluctable, vraiment. Il marche aussi lentement qu'un Jason Voorhees ou qu'un Michael Myers, et c'est vraiment cette menace qui va te rattraper tout le temps.
Parce qu'il avait fait des films avant, il avait fait Conan, etc., mais c'est aussi l'un des films qui va propulser Schwarzenegger en héros, ou en tout cas en acteur autre qu'un simple bodybuilder. Ça va être un acteur qui... Quoi, c'est un film qui a propulsé sa carrière.
Ouais, c'est vraiment un...
Il est encore un peu tout frais.
Personnage iconique, et il y a ces scènes aussi qui, moi, me faisaient peur aussi quand j'étais petite, mais c'est vraiment la scène où il se répare, et on voit sous sa peau...
Il y a des effets spéciaux assez saisissants pour l'époque.
Et qui n'ont pas trop vieilli. Et quand on le voit, avec son œil rouge et sa peau qui a fondu, ce côté un peu film d'horreur et tout, et c'est en fait une petite série B, parce que c'est un tout petit budget, je crois que c'est peut-être 6 millions, quelque chose comme ça. Parce que
le deuxième film de James Cameron, il a juste fait Piranha 2 avant, ouais. Donc c'est vrai qu'on lui donne pas beaucoup d'argent à l'époque.
Ouais, et puis c'est quelque chose d'assez compliqué.
Et ça a lancé une franchise de fou.
Ouais, et le deuxième, c'est vraiment le passage au blockbuster, mais celui-là, c'est vraiment un plus petit film, un film plus simple, mais voilà, qui pose des questions sur la condition humaine, sur les relations. Et
ce qu'on laisse au futur.
C'est ça, sur même au niveau du... Enfin, c'est assez intéressant de voir la fin, sans spoiler non plus, mais il y a la boucle est bouclée avec cette photo. Ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très beau. Je l'ai revu là, ces derniers jours, parce que voilà, j'ai revu Freddy et ça, parce que voilà, c'est mes films doudous. Mais c'est des films qu'on peut revoir si longtemps après, et je trouve qu'ils n'ont pas vieilli, quoi.
Et donc, c'est ton coup de cœur de 1984, Terminator James Cameron. Si vous l'avez vu, revoyez-le. Et si vous ne l'avez jamais vu, voyez-le. Comme lundi, tout le monde connaît le 2, mais peut-être que le 1 est peut-être moins connu et ça peut être une bonne occasion de se rejeter dessus. Ma petite recommandation pour 84 va être un film un peu différent de Terminator, légèrement différent
de
Terminator.
De salle, de ambiance.
Voilà, exactement. Ça va être Paris, Texas de Wim Wenders, qui est la palme d'or de ce festival 1984, donc l'un des films aussi importants de cette année-là. Et palme d'or, c'est important de le souligner, à l'unanimité. C'est-à-dire que tout le jury a été d'accord pour décerner la palme d'or à ce film-là, Paris, Texas de Wim Wenders, qui est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui réapparaît subitement après 4 années d'errance où il a disparu, une période sur laquelle il ne donne d'ailleurs aucune explication à ses proches, et ce disparu va donc retrouver son jeune fils avec qui il va tenter de se reconnecter, et va surtout aussi tenter de retrouver la mère de l'enfant et sa femme, voilà, après ces années d'errance. Et c'est drôle parce que Paris, Texas, si c'est un film qui est vu comme un classique, qui est vu comme un film important, on a ces images d'Harry Stanton dans le désert avec sa casquette rouge, et moi c'est un film que j'ai eu 10 ans dans ma watchlist, 10 ans je le mets, il faudra que je le regarde un jour, etc. Et avec les années, pendant 10 ans, moi au bout d'un moment, ce film là il me faisait peur parce que on te dit classique, on te dit c'est un film important, on te dit Wim Wenders, on te dit Palme d'Or, ça fait flipper tout ça, donc tu te dis oh là là, j'ai pas envie de le voir, j'ai peur de le voir, j'ai de l'appréhension, etc., etc. Et du coup, pour l'émission, je dis allez Thibaut, bouge-toi, secoue-toi, prends ton courage à deux mains et regarde-le. Et finalement, ce film dont j'avais tellement peur, c'est tout ce que j'aime. Ça a été une claque phénoménale, c'est un film qui est rentré dans mon top 10 assez rapidement. Et c'est finalement, j'ai été cueilli et c'est un film que j'adore parce que c'est une réelle épurée, la photo du film est sublime, t'as une poésie permanente dans le film, t'as ce désert, t'as ces plans de l'Amérique. Wenders choisit de faire une réalisation assez vignette, c'est-à-dire que tout le début du film, c'est des plans fixes de Harry Stanton dans le désert, et finalement, Wenders filme plus l'Amérique que les personnages, et donc c'est aussi beaucoup un film sur l'Amérique et ses espaces vides, les stations-service, le désert, ses routes, donc c'est aussi un film, un film beaucoup sur le territoire américain et ses espace vide américain, et c'est 2h27 de film qui filme mais comme une balle parce que c'est beau. Harry Stanton, que moi je connaissais dans Alien, là il dit quasiment rien, il est saisissant de beauté, et t'as une scène, t'as une deuxième partie de film, t'as une séquence de film qui est souvent le poster d'ailleurs du film avec Natasha Kinski en pull rose. Toute la séquence du film, le concept même est sublime, et bref, j'ai été cueilli, j'ai été saisi. C'est un grand film, un vrai, et c'est aussi d'ailleurs une autre vision des États-Unis par un réalisateur européen. On a eu Sergio Leone avant, là c'est Paris, Texas, Wim Wenders qui nous offre ce regard américain particulier. Moi ça m'a fait penser à Raymond Depardon avec peut-être ce regard un petit peu documentaire, un petit peu réaliste on va dire, de ces espaces américains. Bref, c'est ma recommandation pour 1984, Paris, Texas de Wim Wenders. Voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré donc à l'année 1984. J'aimerais avant tout remercier mon invité, Marie Casabonne. Merci beaucoup, Marie.
Merci à toi, j'étais ravie de participer à cette émission.
Merci d'avoir partagé ton cinéma avec nous. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Partagez cet épisode et suivez le compte Twitter de l'émission pour les dernières infos. Et je rappelle que si vous aimez Année Lumière, n'hésitez pas à me soutenir directement via Tipeee à l'adresse tipeee.com/AnnéeLumière. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut !